vôtre, vous le savez maintenant, c'est on raconte l'histoire sans se la raconter. Et avec nous, on a quand même la chroniqueuse, c'est de l'or en barre. Hein,
on peut le dire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne tous les jours dans l'intimité de l'histoire.
Ah oui, mais enfin là, je vous entraîne dans un coin sombre. Hein. Remarquez, on sort de la tombe.
Déjà, entraînez-nous dans votre micro, ça sera déjà pas mal.
Pas mieux là ?
Oui, ah là, on vous entend, oui, là, c'est bon.
Alors, je vous disais que j'allais moi aussi, je vais vous entraîner dans un coin sombre qui n'est pas la tombe de Toutankhamon, mais la prison pour dettes. La prison pour dettes, elle ne date pas d'hier, elle a été créée par le roi Philippe le Bel en 1303. Et alors, en fait, le débiteur était considéré comme le prisonnier de son créancier. Il n'était pas le prisonnier du roi. Pour le roi, ça créait une ressource fiscale, parce que sur la vie du créancier, il fallait un écrit royal, un saint royal. Bon, donc un peu d'argent pour l'État. Et puis, ça avait un autre avantage, la prison pour dette, c'est que ça évitait que le débiteur et le créancier se mettent à se taper dessus. Hein. Alors, comme les frais de séjour du créancier... Non, le contraire, comme les frais de séjour en prison pour dette étaient à la charge du créancier, bah, il n'avait pas intérêt à ce que son débiteur reste en prison, en effet, parce que s'il restait en prison, il ne pouvait pas payer. Donc, il fallait au contraire qu'il sorte, qu'il se mette au boulot pour payer ses dettes. Donc, à Paris, deux prisons pour dette, Clichy et Sainte Pélagie. Alors, c'était des prisons pour dettes. Hein. Ou alors, sinon, vous
donc
aviez.
Les endettés se retrouvaient entre
si vous voulez, c'est là, il y avait des.
Entre eux.
En réalité, c'était des prisons qui avaient des cellules dédiées aux débiteurs. Et à Paris, la durée moyenne de séjour en prison pour dettes était de 102 jours et de 72 jours dans le reste de la France. C'est curieux, ça. Et alors. Comme,
on en
fait,
plus,
oui. Oui, ça durait plus longtemps à Paris. Peut-être qu'il y avait plus de quoi festoyer à Paris et que du coup, voilà, la vie parisienne
fait
que
Pélagie, c'est joli.
On cramait. Bah, c'était joli, Pélagie, mais c'était pas la joie d'y être enfermé. Hein. Alors en fait, la prison pour dettes, ça valait pas vraiment la peine parce que ça coûtait dans les 900 francs aux débiteurs et donc pour toute créance inférieure à 1000 francs, si vous voulez envoyer quelqu'un en prison pour dettes, bon, il y avait une certaine disproportion entre l'instrument et l'objectif poursuivi, c'est pourquoi on a fini par l'abolir en 1867. Mais tout au long du 19e, dans l'œuvre de nos plus grands romanciers, la prison pour dettes est présente. Évidemment, on pense tout de suite à Balzac. Balzac qui déménage toutes les 5 minutes pour que ses créanciers ne puissent pas lui courir après. Je ne sais pas si vous avez visité, Mathieu, la maison de Balzac. Elle est juste en face de la Seine, là, il faut que vous y alliez un jour.
C'était un projet que j'avais.
Mais... il faut y aller absolument. Alors, vous voyez qu'il avait choisi délibérément cette maison parce qu'on y rentre vers le haut de la rue, là, et puis on peut fiche le camp par une rue par en bas, à l'étage en dessous.
Pratique,
donc dès qu'on lui annonçait ses créanciers, il partait en courant. Enfin, Balzac, qui était constamment endetté, a quand même échappé à la prison pour dette grâce à des amis. Par exemple, en 1837, c'est une de ses amies, la comtesse Guido Boni Visconti, qui paie pour lui 1830 francs, ce qui est quand même une grosse somme pour lui éviter Clichy. Mais cette question de la prison pour dette est partout dans son œuvre, dans la comédie humaine, la cousine bête fait enfermer Venceslas à Clichy, le comte Maxime de Trailles est menacé de prison pour dette. Alors, autres auteurs constamment à court d'argent et menacés de la prison pour dette, Dumas et Baudelaire, bien sûr, ils courent constamment après l'argent, mais ils n'ont pas pour autant fréquenté Clichy ou Sainte-Pélagie, alors que Nadar, le célèbre photographe, y a passé un mois en 1850. Et Poulet-Malassis, qui était l'éditeur des Fleurs du Mal de
Comment
Baudelaire. Poulet-Malassis, c'est l'éditeur des Fleurs du Mal. Et bien, il a passé aussi, il a séjourné en prison pour dette à Clichy en 1862. Alors, celui, il y a un numéro qui va passer pratiquement 2 ans à Clichy, c'est Léon, le fils aîné de Napoléon.
Ah oui, le comte Léon.
Le comte Léon, il a passé 2 ans en prison pour dette. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment un petit malin. C'est au bout d'un moment, il en a marre d'être là, et donc il fait passer un avis de décès, de son propre décès, dans la commune où résidait son principal créancier.
Ça,
alors du coup,
malin.
Le créancier se dit bon ben il est mort, j'ai plus besoin de payer pour lui, et hop, Léon du coup est libéré. Ça, c'était quand même très très marrant. À Clichy. et il rencontre un certain Swan. En fait, quand il arrive en prison, deux geôliers en gants blancs viennent lui donner la carte de visite de ce monsieur. Swan, c'était un richissime, extraordinaire.
Ah, pardon.
On est sous masque,
mais c'est vrai.
Swan, c'était un riche négociant américain, un ami de Washington et de Lafayette, et il avait été mis en prison pour dette à Clichy en 1808 pour la somme de 60 000 francs. Hein. Donc, quand le comte Léon arrive en prison à Clichy, Swan y est déjà depuis 29 ans. 29 ans, hein. Alors, parce que pour un Français, la contrainte par corps, ça ne pouvait pas dépasser 5 ans, mais pour un étranger, c'était...
Mais comment voulez-vous qu'il rembourse ses dettes s'il est en prison pendant 29 ans ?
Non, il s'en foutait, ce n'était pas son problème, parce que si vous voulez, sa fortune s'élevait à 3 ou 4 millions, donc il aurait très facilement pu payer tout ce qu'il devait, mais il prétendait ne pas devoir 60 000, mais 6 000 francs. Donc il refusait de payer...
Les anciens, les nouveaux francs.
Refusait de payer cette somme, même si pour ça, il devait passer toute sa vie en prison. Donc il avait fait savoir à sa femme et ses enfants qu'il les déshériterait jusqu'au dernier sou, s'ils avaient le malheur de payer ses dettes. Alors, comme il était très riche, il payait les dettes de tous ses voisins de cellules pour pouvoir récupérer leurs cellules et constituer un spacieux appartement qu'il a fait meubler somptueusement. Il avait donc 5 cellules à lui tout seul, 2 geôliers en gants blancs, puis il recevait ses invités au cours de repas servis dans de l'argenterie et fournis par le meilleur traiteur du moment. Et puis par ailleurs, il louait une maison rue de Clichy pour sa famille, ses maîtresses, ses amis de passage.
Ils avaient l'air de se compliquer la vie.
Extraordinaire. Alors il y avait 2 voitures attelées à leur disposition pour aller se promener, pour aller au spectacle, etc. Ils étaient entretenus aux frais de Swan, qui ne leur demandait qu'une chose en compensation, hein, c'était de venir leur faire le récit de leur vie parisienne. Alors, le fils Léon, dont je vous parlais à l'instant, je reviendrai une autre fois sur son sort, parce que c'est quand même un sacré coco, mais sachez qu'à 33 ans, c'est-à-dire l'âge auquel son père était à quelques mois d'être couronné empereur à Notre-Dame, le comte Léon lui était en prison pour dette à Clichy depuis 2 ans, mais et il y composait ces vers immortels. En ce lieu, je ris et je dors bien, comme si je ne devais rien. Et zon, 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 vive la prison. Alors, comme on peut le voir, le comte Léon n'était pas Napoléon, mais c'était pas Rimbaud non plus. Hein.
Oui. Mais dites-moi, mais comment le fils de Napoléon pouvait être désargenté?
Ah, parce que parce qu'il a carbonisé sa rente. Oui, c'est un personnage très pittoresque.
D'une maîtresse.
Je vous raconterai sa vie une autre fois, parce que si vous voulez, c'est vraiment le soleil noir de l'empereur. Oui. Comme le disait Napoléon lui-même, on peut s'arrêter quand on monte, jamais quand on descend. Et Léon, il a terminé à Pontoise, marié à une femme de ménage qui a fait la manche pour payer les 4 planches de son cercueil.
Ne déflorez pas votre prochaine chronique, Clémentine. On a envie d'entendre.
Il était la moitié de Napoléon.
Oui. Et de sa mère, Napoléon et Léonore de Nuel de la Plaine, chacun lui avait donné la moitié de son prénom. Et lui-même disait, avec des parents comme les miens, n'avais-je pas tout pour n'être rien? Et en effet, il ne fut rien.
Il l'avait bien analysé. Oui. Freud n'était pas encore là.
Mais dites-moi, il est bien ce Swan. Mais moi, j'aurais
préféré... Ça vous fait envie, Stéphane?
Non, mais c'était plus simple de payer. Ça lui a coûté finalement plus cher que toute la dette qu'on lui réclamait.
Bien sûr, mais c'était un homme qui avait de la... Oui, il était entêté. Hein.
Question de panache. En aurez-vous dans le quiz?
Bien sûr.
Ah, ça, qui vivra verra. Sûr,
ouais.